Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue, ou enfin re-bienvenue pour plusieurs d'entre vous.
Oui.
Bienvenue pour certains autres.
Pour les nouveaux.
Pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent et qui commencent peut-être à écouter cette merveilleuse émission d'information.
Incroyable.
Qui s'appelle, à juste titre...
Peut contenir des infos.
Bon.
Ça en contient pas nécessairement, mais ça peut.
Ben, ce que j'allais dire, c'est que si le nom peut contenir des infos, vous sonne pas une cloche à quelque part, qu'il peut effectivement y avoir de petites bribes d'informations.
Oui.
On aurait pu aussi... C'est quoi l'autre titre qu'on avait réfléchi l'année passée? C'était « On va se coucher moins niaiseux », je pense.
Ça, puis « La Ligue du vieux poil ».
Je sais pas.
Ben, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, là.
Oui, oui, c'est ça. J'avais l'impression un peu de me retremper dans les années... C'est en quelle année, ça, la Ligue du vieux poil? Ça doit être les années 50-60.
Oui, sûrement 50-60, oui.
Sinon, passez un bon été.
Oui, absolument. Et toi, mon cher?
Oh, ça a été fantastique.
Oui?
Oui. On allait faire un petit tour du côté du Nouveau-Brunswick, entre autres.
Mm-hmm. D'ailleurs, ça va découler un peu dans l'émission, dans une de nos émissions bientôt.
À venir, oui, absolument. Oui. Ouais, ça m'a amené à du côté de Shediac.
Mm-hmm.
Puis on va faire une entrevue en lien justement avec un des endroits où je me suis arrêté.
Oui. Oui, ça va être intéressant, vous allez voir.
Très intéressant.
Oui.
À part de ça, ben, faire des petites rides de moto électrique.
Mm-hmm.
Un petit peu.
Oui.
Faire virer des têtes parce que les gens voient une moto arriver puis ils font comme.
Voyons. Il manque de quoi?
Qu'est-ce que ça?
Il manque de quoi?
Il manque un son, je ne sais pas trop.
Oui, c'est
alors,
ça.
C'est un peu ça.
Elle n'émet aucun son.
Ben, le seul bruit qui commence peut-être à y avoir un petit peu, là, c'est les freins, les disques des freins. Là, ça peut peut-être un peu...
Oui,
un petit peu. Quand même quelques centaines.
Mais à part de ça, il n'y en a pas.
Non, c'est zéro pointé.
Fait que tout ce que tu entends, c'est les pneus sur l'asphalte.
L'asphalte, vent, that's it, là. Quand tu roules, t'entends le vent, puis c'est tout. Là. Pis sinon, ben les pneus sur la chaussée. C'est un peu spécial.
Oui, j'imagine.
Quelqu'un qui est motard sur les bords, là, qui trippe à faire de la moto, là, peut-être qu'il ne trippera pas tant que ça, parce que je sais qu'il y en a pour plusieurs, l'expérience de faire de la moto, c'est d'avoir le bruit qui vient avec.
C'est ça.
Mais moi, le bruit d'une moto, honnêtement,
Pas plus que ça. OK, ouais.
Moi, j'aime bien voyager du point A au point B sans nécessairement avoir le son tonitruant
de
la moto.
De Harley. Mais un bicycle à gaz, pas de gaz.
Un bicycle à gaz, pas de gaz. C'est appelé ça.
Ouais.
C'est spécial.
Oui.
Ah, parce que ça ressemble d'une moto quand tu le regardes, là.
Oui, je sais.
Mais tu vois, c'est parce que tu vois pas le bloc moteur et tout
non,
ça. Fait qu'il y a bien des gens qui font comme, qu'est-ce que c'est ça?
Tu vois, c'est ça.
Alors non, c'est pas une moto pierre à feu, là. Ça avance pas avec les pieds, là.
Ah, non.
Non.
Ah,
non,
OK. Juste, petite question comme ça, là. Tu peux aller jusqu'à quelle vitesse?
C'est une low speed, là. C'est ce qu'appelle, en tout cas, de la mienne, là. Il y en a des motos électriques qui vont beaucoup plus rapidement que ça, là. Il y a des motos électriques qui vont à 300 km/h, là.
Okay.
C'est comme des motos de course.
Oui.
La mienne, c'est à peu près 70-75 km/h dans le... Mais pour faire...
Parfait pour en ville.
Pour ce qu'on appelle en anglais les commuters, là.
Oui.
Gens qui font l'aller-retour matin et soir pour aller au travail, là. C'est correct. C'est bien correct. Ça a une autonomie, la batterie pleine, d'à peu près une centaine de kilomètres. Et pour recharger la batterie, écoute, ça coûte 28 cents d'électricité.
Tu l'as calculé?
Ouais.
28 cents?
À peu près 28 cents, au complet. Avec mon Sorento,
28 cents, tu n'iras pas loin.
J'irai pas loin.
Non,
À une et 60.
Tu le partiras même pas.
Non, ben c'est ça. Tu as le temps de le partir, de le laisser virer une couple de secondes. Puis
il va s'éteindre.
Il va s'éteindre.
Mais 28 sous
d'électricité.
Puis tu fais à peu près... Presque une semaine?
Ben non,
enfin,
trois jours? Parce que, je pourrais, là, mais techniquement, mais je veux pas prendre de chance non plus, là. Tu sais, j'arrive à la maison chez nous après l'ouvrage, puis je le recharge immédiatement pour avoir une batterie pleine parce que ça me tente pas nécessaire. Tu sais, des fois, t'as des détours à prendre, des trucs du genre. Fait que, non, c'est un peu comme avec un véhicule électrique à toute fin utile, là. Une voiture, par exemple. Tu sais, quand t'arrives chez vous à la maison le soir, ben, c'est un automatisme que tu prends. Ça devient un peu mécanique. mécanique, tu rentres la moto dans le garage et puis systématiquement tu la branches immédiatement. Ben puis après, au prix que ça coûte pour recharger ça, puis avec la consommation d'électricité, le disons l'impact que ça a sur notre consommation d'électricité, bon, tu le gênes pas, tu sais.
Puis tu sais, quand tu y penses, ça te coûte à peu près 50 sous par semaine.
Grosso modo,
ouais, là, 50 sous par semaine pour aller au travail et retourner.
Puis l'immatriculation, c'est à peu près le prix d'un scooter, là, parce que c'est considéré comme un low-speed motorcycle, fait qu'une moto à basse vitesse, fait que ça coûte pas une fortune non plus. Les assurances, pas très cher non plus, honnêtement. Tu sais, je vais-tu recommencer l'année prochaine?
Ouais.
Parce que poser la question, c'est un petit peu irréparable.
Ouais, c'est ça.
On va recevoir aujourd'hui, et puis il faut vous dire, là, on prend un petit peu de temps dans le début de l'émission, mais il faut vous dire que cette émission-ci n'est pas une copie conforme de l'année passée.
Non, on a apporté quelques ajustements.
C'est ça, on a quelques ajustements.
Pour votre plaisir.
On va avoir systématiquement...
C'est à tous les semaines.
Chaque fois qu'on va se rencontrer, à chaque semaine, nous allons avoir dorénavant un quiz.
Un quiz, oui. Et ça, c'est à la demande générale. OK. Il y a une auditrice qui nous l'a demandé, fait qu'on a dit oui.
Ouais, ben c'est correct. Alors, on va voir, parce que les gens ont l'air à aimer ça, les quiz.
Oui, c'est ça.
Ça permet, dans une certaine mesure, de participer en même temps à la maison chez soi ou encore dans la voiture. Je dis
et on apprend toujours quelque chose.
Et on apprend.
C'est ça qui est le fun.
Et on apprend.
Oui.
Ça fait que vers moins quart, en fait, dans la dernière portion, devrais-je dire, de l'émission, dans le dernier quart d'heure, disons-le de cette façon-là.
Oui, on aura toujours pour vous un beau petit quiz.
Soit François va essayer de me trapper.
C'est ça.
Ou encore, c'est moi
qui
vais essayer.
On va se partager la tâche cette année.
C'est ça. Puis on a toujours des invités, évidemment.
Oui, et aujourd'hui, on en a deux.
Deux. Nous allons, entre autres, recevoir M. Jean-Hugues Roy, qui est professeur à l'École des médias. Il est professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal.
Il va nous parler de?
C-18.
Oh, le projet de loi C-18, sur les nouvelles en ligne. Hein?
Ouais, la loi C-18, c'est une loi qui est entrée en vigueur, ou enfin, non, qui n'est pas... Je recule la cassette.
Oui.
Elle n'est pas encore entrée en vigueur.
Elle a été adoptée.
Elle a été adoptée. Elle n'entrera officiellement en vigueur que dans quelques mois.
C'est ça.
Mais
on a déjà les...
On en subit déjà les contre-coups.
Alors, on va en parler avec...
M. Jean-Hugues Roy. Et nous allons également recevoir une... nutritionniste en pédiatrie.
Oh, ça va être intéressant.
Cosette Gergès, d'une organisation qui s'appelle Nutritionniste en pédiatrie. Elle et ses collègues prodiguent des conseils aux parents, aux écoles, aux milieux en service de garde, des trucs du genre, sur l'alimentation des tout-petits. Et pourquoi tu penses qu'on parle de ça au mois de septembre, mettons?
Laisse-moi y penser deux secondes. Ça serait pas la rentrée, par exemple?
Ben, c'est un petit peu ça.
OK.
Alors, ce dont on va parler avec elle, c'est justement...
Les lunchs?
Les lunchs.
Ah, oui. Oui, parce qu'à un moment donné, là, tu sais, on vient, on sait plus quoi faire à nos enfants. Madame Gergès va nous donner plein de bonnes idées.
C'est ça. Alors, on va parler de ça avec Cosette Gergès un petit peu plus tard dans l'émission. Puis sinon, toi, tu vas nous parler de quoi, là?
Là,
comme dans quelques secondes, mettons.
OK, comme dans tout de suite.
Non, mais comme dans quelques secondes, parce qu'on a maintenant les petits bridges de musique.
Oh, OK, ben moi, je vais vous parler d'un record mondial un petit peu particulier.
Peut contenir des infos.
Mon cher Simon.
Oui, c'est moi.
Te souviens-tu quand on était plus jeune, petit gars?
Oui.
On finissait un match de baseball.
Absolument. Hein?
On se garrochait sur la glacière pour pouvoir caler notre RC Cola et avoir la chance d'émettre un joli petit son parce qu'on l'avait bu un petit peu trop vite.
OK, ouais, genre un petit bruit, comment je dirais ça? petite manifestation gastrique, on va dire.
Disons, oui.
OK, restons polis.
J'étais pas trop pire dans ce domaine-là, mais certainement pas au niveau de certaines personnes avec qui j'étais qui réussissaient à réciter une partie de l'alphabet. Et surtout pas, mon cher, au niveau d'une Américaine qui a battu le record féminin du rôle le plus fort au monde.
Hein?
effectivement un record mondial pour le plus fort row. Madame Kimberly Winters de Spotsylvania, en Virginie, est la nouvelle reine du row. Madame, qui a 33 ans, qui est une Américaine, elle a réalisé son record le 28 avril dernier, mais ce n'est que dans les derniers jours qu'elle a eu la confirmation qu'il était homologué par le livre de records Guinness. Celle qui est reconnue sous le vocable de at Kimi Cola sur TikTok, hein, Kimi Cola, ça va bien, a émis un petit ro faisant osciller l'aiguille du décibelmètre à, quinte-toi bien mon cher, 107,3 dB.
107,3 décibels?
Oui.
Ben non.
Je te dis, c'est plus fort qu'une génératrice. Et ça lui a permis d'effacer la marque précédente de 107 dB qui appartenait à l'Italienne Elisa Cagnoni depuis 2009. Son rapport record est donc plus fort qu'un mixer, entre 70 et 80 dB, qu'une perceuse électrique, 90 à 95 dB, qu'une tondeuse à gaz, qui est à peu près 107 dB, et même que certaines motos, parce qu'on a parlé de motos tantôt.
Oui, absolument. Bon,
que certaines motos à plein régime qui sont entre 100 et 110 dB.
Hey, c'est capoté rare, ça, là.
Mais ça. Madame Winter a pris un café glacé et un sandwich petit déjeuner de Dunkin' Donut. Et juste pour être bien certaine, elle a bu aussi une bière, ce qui lui a permis d'engendrer ce petit vacarme qui est sorti de sa bouche. Le record masculin, mon cher, est de 112,4 décibels. Il est, quant à lui, la propriété de l'Australien Neville Sharp depuis 2021.
La propriété.
Mais oui, mais ça y appartient, le monsieur. Bon, 112,4 dB, là, c'est plus fort qu'une scie circulaire électrique. Tu sais, le vacarme que ça mène, là, ben, imaginez-vous là, que la personne fait un ro plus fort que ça.
Ah, c'est impressionnant.
C'est quelque chose.
Ben, impressionnant. J'hésite en tête impressionné et à la limite un peu écœuré.
Oui, mais oui, c'est...
De penser que quelqu'un rote à 107 ou 112 décibels.
Ouais. Mais non, mais imagine-toi, tu es assis dans un restaurant, la personne est pas loin à côté de toi, et bon, après le repas, elle met un petit ro. Tout le monde s'en vire.
Wow!
C'est un petit peu gênant.
Wow! On marque une première pause déjà dans l'émission.
Oui.
Et on revient dans un instant où on va parler de la loi C-18 avec Jean-Hugues Roy, qui est professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. On va apprendre ça dans un instant. Restez branchés à Peu contenir des infos.
Restez en contact avec Peu contenir des infos.
Peu contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Peu contenir des infos.
Depuis quelques semaines, j'irais même jusqu'à dire depuis quelques mois.
Oui.
On a l'impression d'assister un peu à une espèce de, je dirais quasiment une partie de bras de fer. Entre, d'un côté, le gouvernement du Canada.
Oui.
De l'autre, les géants du web.
Oui, on pense entre autres à Meta et Google.
Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que ça fait des dommages collatéraux, si je peux dire.
Oui, puis les gens le voient pas nécessairement, là, mais je veux dire, ils s'aperçoivent que, hey, on n'a plus de nouvelles dans notre fil Facebook. Comment se fait?
Entre autres choses. Ben donc, oui. Ça fait des dommages collatéraux chez les citoyens, chez les gens des médias également. Et ce projet de loi, en fait, cette loi-là maintenant, parce que ce n'est plus un projet, ça a été voté par le Parlement. Cette loi C-18, on en entend beaucoup parler, mais pour le commun des mortels, peut-être qu'il y a des zones...
C'est quoi exactement?
Des zones d'ombrage. On ne sait pas trop ce dont il s'agit. Et on a pensé faire appel à quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Il est professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, et on l'a avec nous au bout du fil aujourd'hui. Monsieur Jean-Hugues Roy. Bonjour, Monsieur Roy.
Oui, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, oui, vous aussi.
Ben oui, ça va bien dans les circonstances pour les médias. Ça va peut-être un peu moins bien, cependant. La loi C-18, là, on en parle beaucoup, on en entend parler, on lit ça dans nos journaux et tout ça. Si on voulait faire un petit aperçu de cette loi-là, d'abord pour commencer, c'est quoi l'objectif principal derrière C-18? C'est quoi que le gouvernement du Canada voulait faire avec ça?
L'objectif principal, c'est de faire en sorte que les contenus d'information qui circulent sur les plateformes que vous avez mentionnées, Google et Facebook, même si les deux entreprises ne sont pas nommées dans le projet de loi, dans la loi, on y reviendra, là. Mais donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les producteurs d'information, les médias, donc, du Canada, ben, puissent avoir une portion du gros gâteau. qui est fait des revenus considérables qui sont faits par ces deux entreprises-là au Canada, là, qui attirent notre attention là, grâce à au contenu qui circule là, sur Facebook, sur Instagram, du côté de Meta, puis dans les résultats de recherche aussi du côté de Google. Ces entreprises-là font des revenus de, tu sais, ils vendent les dernières estimations calculent que c'est entre 10 et 11 milliards de dollars canadiens en 2022 que ces entreprises-là ont fait au Canada. Une partie de ces revenus-là, ben, à mon sens, puis je pense que au sens du gouvernement, puis au sens de plusieurs personnes qui travaillent dans les médias, là, une partie de ces revenus-là est réalisée grâce à des contenus journalistiques. Alors, mais pour lesquels ces deux entreprises-là ne paient pas. Alors, l'idée, c'est qu'elles partagent leurs revenus avec les producteurs d'informations au Canada par le biais d'ententes à être signées individuellement ou collectivement. Okay. En gros, c'est ça. C'est une loi qui vise un partage, une meilleure redistribution de la richesse du numérique.
Monsieur Roy, c'est quoi les arguments de Meta pour s'objecter à cette loi-là? Mm-hmm. C'est-tu juste, on parle-tu juste d'une question monétaire ou c'est beaucoup plus large que ça, là?
Les arguments de Meta et de Google, c'est que les deux entreprises disent, ben voyons donc, c'est nous qui vous aidons, tu sais, quand les gens font des recherches dans Google, il y a des liens qui mènent vers les sites d'information, donc on vous amène de l'achalandage. Meta dit la même chose. Meta dit, ben voyons donc, c'est vous les entreprises de presse qui créez vos pages Facebook, vos comptes Instagram, c'est vous qui mettez des contenus dans Instagram, dans Facebook. Nous, on va pas vous les voler, là. C'est vous-même qui faites ça. Puis nous, on vous en amène de l'achalandage, là, grâce à vos contenus que vous mettez. Tu sais, nos plateformes amènent des gens vers vos sites web. Alors, pourquoi nous, on paierait pour ça? Alors, c'est l'argument des deux entreprises. Elles disent même que grâce à l'achalandage qu'on vous amène, vous pouvez générer des revenus considérables de votre côté. Là. Alors,
On n'empêche, M. Roy, que ces entreprises-là ont quand même un petit peu appâté, si on peut dire, les médias là, en mettant à leur disposition voilà. des boutons de partage, par exemple, à afficher dans leur site web des trucs du genre. Je veux dire, c'est un peu...
Ça. Oui, pire que ça, là, il y a des études qui démontrent que quand Meta était tout petit, était naissant, ou à la fin de la première décennie du 21e siècle, Meta est à la recherche de contenus consistants, de contenus de qualité, et approchait des entreprises de presse pour dire, hey, ben, venez sur Facebook. On n'est pas gros pour l'instant, mais il y a de plus en plus de monde qui est là. Si vous ouvrez vos pages, vous pourrez, ça va amener du trafic sur vos pages web et tout. Nous, de notre côté, on va pouvoir vendre de la publicité. C'est-tu correct, là? Tu sais, c'était gagnant-gagnant, là, pour les éditeurs de presse, pour les médias et pour Facebook. Mais au fur et à mesure que Facebook et Meta, donc maintenant, ont grandi, ils ont généré Meta et Google de plus en plus d'argent. Et les médias eux-mêmes, en avait de moins en moins. Oui, ils avaient beaucoup d'achalandage. Tu sais, puis c'est ça qui est le paradoxe chez les médias. Les médias n'ont jamais été aussi consultés que maintenant, surtout en temps de pandémie. Hein, ça a été encore plus considérable. Alors que leurs revenus n'ont jamais été aussi faibles. quand un produit n'intéresse personne, c'est correct qu'une entreprise disparaisse. Mais c'est pas le cas avec les médias. Là. Ouais. Ce que les médias produisent intéresse les gens de plus en plus.
L'impression que
ils réussissent pas à faire de l'argent avec ça.
Ouais, moi j'ai l'impression que Google puis Facebook entre, c'est un peu des pushers là, si vous me permettez l'image. Mm-hmm. C'est qu'ils ont fourni cette espèce de drogue aux médias pendant des années et aux consommateurs ou enfin à monsieur, madame, tout le monde. Et là, tout d'un coup, une fois qu'on est bien accro à ça, ils ont décidé de couper la vanne. C'est un petit peu ça là.
Oui, quand ça faisait plus de leur affaire là, quand les termes, quand les éditeurs de presse, les médias se sont dit, écoutez, on peut-tu avoir un meilleur partage de la valeur qui est, qui est générée par nos propres contenus? Là, ils ont dit non. Le projet de loi, la loi C-18 visait à ne nomme, je le disais tantôt, ne nomme pas les deux entreprises, ni Google, ni Meta. Elle parle, C-18 parle d'intermédiaires de nouvelles numériques. OK, ça reste flou, là. Donc, dans la définition d'intermédiaire de nouvelles numériques, ben c'est ça, c'est des plateformes sur lesquelles on peut trouver des nouvelles, de l'information. Alors, c'est ça que Meta fait en ce moment. Meta essaie d'échapper à la définition de la loi en enlevant les nouvelles, en enlevant l'information de ces plateformes. Comme ça, la loi ne s'appliquera plus à Meta lorsqu'elle va entrer en vigueur. Alors, vous l'avez dit, elle a été adoptée au mois de juin, là, la loi. Elle a obtenu la sanction royale, mais elle n'est pas encore en vigueur. Elle va juste entrer en vigueur le 22 décembre, normalement, ou peut-être même avant, en tout cas, au plus tard, le 22 décembre. Et là, c'est ça, il y a un jeu de négociation en ce moment, puis c'est pour ça que Meta enlève les contenus d'information de ces plateformes maintenant.
Êtes-vous surpris le bras de fer dure encore, compte tenu de ce qui s'est passé en Australie, tu sais, à un moment donné? Oui, ils ont fait la même affaire, mais ils ont comme cédé un peu.
Oui, ce qui est arrivé, c'est compliqué un peu à comprendre, mais la loi C-18 prévoit un processus contraignant de négociation et pour y échapper à ce processus contraignant-là, C-18 espérait que Meta et Google signent des ententes individuelles avec les organisations médiatiques, donc avant de tomber sous le coup de la loi. C'est ça qui est arrivé en Australie, là. C'est le même scénario. Meta avait retranché les contenus, là, ils avaient obtenu une espèce d'adoucissement des termes de la loi. Ils ont signé des ententes individuellement avec différents médias. Et la loi australienne ne s'applique finalement pas vraiment, pas du tout aux deux plateformes. On voulait refaire la même chose au Canada. Sauf que de ce qu'on comprend, c'est que la loi canadienne, elle visait aussi à combler certaines lacunes de la loi australienne. La loi australienne a permis aux plus grands médias, aux plus grandes entreprises de presse de signer des ententes avec les deux géants. Elle a laissé un peu en plan de plus petites organisations. Donc, la loi canadienne voulait forcer aussi les deux géants à signer des ententes avec aussi de plus petites organisations, entre autres là, des médias francophones en milieu minoritaire, par exemple, des médias autochtones. Bon. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les deux géants du web ont trouvé C-18 peut-être un peu trop gourmand, un peu trop... ça ratissait un peu trop large et ils n'ont pas aimé ça. Et c'est pour ça là, qu'ils ont retranché l'information. Ils veulent faire plier le gouvernement, faire en sorte qu'il y ait moins d'ententes peut-être, qui vont être signées. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Là. Il reste encore quelques mois avant que la loi entre en vigueur. Est-ce que le gouvernement va mettre de l'eau dans son vin? Vraiment, j'ai aucune idée.
Ouais. M. Roy, une dernière question, là. Il y a plusieurs opinions là-dessus. Il y en a qui sont très en faveur de C-18. Il y en a qui sont complètement contre. Est-ce que, entre vous et moi, puis le tuyau du poil, là, comme on dit, est-ce que c'est si catastrophique que ça? Est-ce que c'est pas en quelque sorte, moi, c'est mon opinion, est-ce que c'est pas en quelque sorte une espèce de, comment je dirais ça, une opportunité à saisir pour les médias, pour les consommateurs d'informations aussi, de découvrir d'autres façons de s'informer ou de redécouvrir d'autres façons de s'informer?
Oui, peut-être, c'est ça. J'étudie ça, l'utilisation par les médias, des réseaux sociaux par les médias, pas juste Facebook, Instagram, mais TikTok aussi maintenant. On est un peu, les médias sont un peu accros, effectivement, drogués aux plateformes numériques. Et ce faisant, ils adoptent les mêmes tactiques, disons, la même la même approche. Les médias sociaux font de l'argent grâce aux clics, grâce au partage et tout. Donc, les médias aussi, ils emboîtent le pas. Ils utilisent la même logique de clics. Alors, c'est peut-être pas une bonne chose, dans le fond, là, que de dépendre autant des médias sociaux. Et c'est peut-être un mal pour un bien que Meta retranche les contenus d'information. Effectivement, ça force. Ça prive les médias de revenus. Bon, ça, c'est plate, là. Ouais. Mais ça force peut-être une réflexion sur la façon qu'on peut, avec laquelle on peut maintenant rejoindre le public. Il y en a d'autres. Il y a des applications mobiles, tu sais, c'est pas tous les médias qui ont les moyens de s'en créer une, mais bon, c'est un moyen. Il y a des infolettres, il y a des podcasts. Bon, même les podcasts, ça dépend aussi d'autres types de plateformes,
là. On redécouvre aussi les vertus d'outils qui sont aussi, disons, anciens que le flux RSS, par exemple. Il y a des gens qui redécouvrent
ça. Mais c'est ça. Les médias ont un peu délaissé ces flux RSS. C'est pas tous les médias, en tout cas, qui ont des flux RSS mis à jour régulièrement. Enfin, peut-être que là, c'est aux médias de les réactiver, effectivement.
Mais
ça va demander plus d'efforts aux gens.
C'est ça.
Mais il y a les sites web aussi. On retourne tranquillement pas vite sur les sites web des médias, là.
Monsieur Roy, on n'a pas le temps en fil, malheureusement. On n'a pas une boule de cristal. On connaît pas l'issue de cette problématique-là. On sait pas si ça va se régler avant que la loi entre en vigueur, comme vous le disiez, quelque part au mois de décembre. Mais on peut croiser les doigts entre-temps et inviter les gens, c'est la meilleure des choses à faire, de varier. C'est un peu comme l'alimentation. Variez vos sources. Si vous vous cantonnez à manger toujours le même bol de céréales le matin, peut-être que vous allez avoir des carences. Puis l'information, c'est un peu ça aussi. Si on se cantonnait à seulement Facebook, c'est peut-être le moment d'aller découvrir d'autres choses ailleurs aussi, là.
Oui, les radios communautaires, les télévisions communautaires, les médias communautaires dans notre coin de pays, hein, c'est ce qui est plus menacé. Hein. Alors oui, s'il y a plus de gens qui se tournent vers ces médias de proximité, ça va être une bonne chose.
Oui, une très bonne chose.
Absolument. Jean-Hugues Roy, professeur de journalisme à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, on parlait avec lui de cette loi C-18. Merci beaucoup, M. Roy.
Merci de l'invitation, là. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Septembre, c'est le synonyme, évidemment, de la rentrée à l'école. Oui. Et même dans certains cas, on ne se le cachera pas, c'est même une première expérience à l'école pour certains enfants, parce qu'il y en a des tout-petits, entre autres choses, qui vont faire leur entrée à la maternelle. Il y en a même qui vont commencer quand tu as eu l'école primaire. Donc, c'est de grands sauts, hein, faut pas l'oublier.
C'est même, Simon, pour certains parents, la première expérience de préparer des lunchs.
Ah oui, les fameux lunchs.
Avec les aliments qui sont interdits de nos jours, les allergies alimentaires à prendre en compte, ça devient très compliqué préparer un lunch.
Oui, c'est vrai. Manger à la maison, ça, c'est une chose. Oui. Mais manger un lunch à l'école, avec les autres petits amis et tout ça, ça, c'est une toute autre chose. Alors, comment s'assurer que nos enfants mangent bien, qu'ils ont les bons aliments dans la boîte à lunch? C'est quelque chose dont on voulait discuter aujourd'hui. Et pour le faire, on reçoit en entrevue avec nous une personne qui est, pour ainsi dire, spécialisée en la matière. C'est Madame Cosette Gergès. Elle est nutritionniste au sein d'une organisation qui s'appelle Nutritionniste en pédiatrie. Madame Gergès, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ça nous fait plaisir, cette circonstance, c'est la rentrée scolaire. Madame Gergès, parlez-nous d'abord de votre organisation. C'est quoi ce nutritionniste en pédiatrie? C'est quoi votre rôle au juste?
En fait, nous sommes 6 mamans et nutritionnistes qui sont spécialisés en pédiatrie. Puis notre mission, c'est de partager les meilleures approches en nutrition pédiatrique auprès des familles, des professionnels de la santé, des écoles, des garderies, bref, tous ceux qui vont côtoyer ou qui travaillent avec des enfants pour que nos petits cocos puissent développer un plaisir à découvrir les aliments dans la bienveillance, dans une approche qui est sécurisante pour qu'ils restent des mangeurs intuitifs, développer des compétences alimentaires et une saine relation avec la nourriture. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut donner à nos petits cocos. Puis, comment on fait ça? Avec les informations que l'on partage sur les médias sociaux et par les consultations et par notre balado, qui est un balado québécois dédié à l'alimentation des enfants. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à, je pense, rejoindre les familles et tous ceux qui s'intéressent à l'alimentation des enfants.
Madame Gergès, quels sont les principaux éléments qu'on devrait trouver dans une boîte à lunch pour les tout-petits pour s'assurer qu'ils aient une alimentation qui soit équilibrée?
Pour être soutenant, Un lunch devrait contenir donc des fruits et des légumes, des aliments qu'on appelle protéinés, puis des grains entiers. On va miser sur les proportions que ces types d'aliments vont représenter plutôt que des portions. Le guide alimentaire canadien que vous connaissez sûrement propose une assiette qu'on appelle équilibrée qui est divisée en trois parties. Donc, un quart de l'assiette va représenter des aliments protéinés, l'autre quart des grains entiers, puis la moitié qui reste des fruits et légumes. Par contre, chez les enfants qui sont en pleine croissance, bien, on va privilégier une assiette qui est divisé en tiers égaux. Donc, on devrait retrouver autant de fruits et légumes, d'aliments à grains entiers que d'aliments protéinés. Et pour ce qui est des portions, ben, on va encourager l'enfant d'être à l'écoute de ses signaux de faim et de rassasiement plutôt que d'imposer des portions à consommer. Donc, l'enfant, il est capable de déterminer la quantité de nourriture qu'il a besoin pour manger selon sa faim du moment. Puis là, j'entends les parents dire « Ah, c'est stressant, un tiers de ça, un tiers de ci. Mm-hmm. » On ne cherche pas la perfection hein, quand on fait des boîtes à lunch. Ça ne sera jamais tout le temps parfait. C'est la vraie vie. Et les proportions dans les boîtes à lunch, bien, ils vont varier selon les restants du souper, selon ce qui est disponible dans votre frigo, dans votre garde-manger. Ne vous mettez pas de pression. Hein. L'alimentation de l'enfant ne va pas s'évaluer sur un seul lunch. C'est vraiment sur plusieurs journées. Donc, sachant que c'est vraiment en proportion égale, on regarde ce qui reste à l'heure du souper, puis on peut monter les boîtes à lunch de cette manière-là, en faisant participer l'enfant, bien évidemment.
Et ça fait partie d'un tout, de toute façon. Il faut bien déjeuner le matin, on a un bon lunch, des collations à l'école, et ensuite de ça, ben, si on a un souper qui fait du bon sens, ben, c'est tout cet ensemble de cette combinaison d'aliments-là qui fait qu'on a en soi tous les nutriments qu'il nous faut, hein? C'est ça?
Exactement. Donc, c'est ça, ça ne s'évalue pas en un seul repas. Souvent, les parents se mettent beaucoup de pression. Mais dites-vous, c'est un seul repas, deux collations. Il y a aussi ce qui se passe le matin, le soir, la fin de semaine. Donc, l'alimentation de l'enfant s'évalue vraiment avec un regard sur plusieurs journées, mais plusieurs semaines.
À l'inverse, qu'est-ce qu'on doit éviter à tout prix comme aliment dans la boîte à lunch?
J'adore votre question. Je pense que la réponse va peut-être vous surprendre. Les aliments périmés, les aliments auxquels l'enfant est allergique, les aliments qui contiennent des arachides et des noix. C'est tout. Pour le reste des aliments, le parent, en collaboration avec son enfant, va déterminer le contenu de sa boîte à lunch. Tous les aliments ont leur place. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, une alimentation équilibrée. Donc, tous les aliments ont leur place. Plus on interdit ou on contrôle la consommation d'un aliment, bien, plus celui-ci devient spécial aux yeux de l'enfant et même d'un adulte. C'est un comportement normal. Plus j'interdis un aliment, bien, plus cet aliment devient un aliment plaisir, plus j'en veux de cet aliment-là. Donc, on propose une variété d'aliments en se basant sur les goûts, les préférences de nos enfants avec une petite touche de nouveauté par-ci, par-là, parce que là, j'entends les parents dire « Mais j'aimerais ça que mon enfant mange plus de légumes. » Bien évidemment, on va pouvoir intégrer de la nouveauté par-ci, par-là. À petite dose, peut-être pas les premières semaines d'école. Hein. Vous m'avez parlé de l'entrée scolaire des cocos, surtout en maternelle. Les enfants ont besoin de familiarité, c'est sécurisant. Donc, dans les premières semaines d'école où ils rentrent dans un monde où tout est nouveau, la familiarité est importante. Donc, misez sur les repas que votre enfant aime beaucoup, ses repas préférés. Pour les premières semaines, puis par la suite, on va pouvoir intégrer graduellement de la nouveauté, puis soyez pas surpris, votre enfant va vous demander « Mon ami a mis dans son lunch tel aliment » ou il va essayer de vous le décrire par le visuel de l'aliment. Donc, il va peut-être lui-même vous demander de rajouter une telle nouveauté que vous n'aurez peut-être pas pensé à ajouter vous-même dans la boîte à lunch. Donc, c'est un apprentissage aussi, manger avec d'autres amis. C'est différent du milieu de la garderie où tout le monde reçoit le même repas. Là, c'est différent. Ils vont être exposés à une variété d'aliments qu'ils ne voient peut-être pas à la maison. Fait que c'est un point positif, ça.
On veut qu'ils mangent santé. On veut que ce soit équilibré, mais... Y a-t-il des petits passe-droits, des fois, qu'on pourrait leur permettre des aliments, là, tu sais, qu'on pourrait leur donner en parcimonie, puis qui seraient corrects quand même pour leur santé?
Vous savez, je reviens avec ce que je vous avais dit tout à l'heure, là, tous les aliments ont leur place. Okay. C'est, ne rien cacher aux enfants. Si vous voulez intégrer, des courgettes à votre enfant, vous décidez de faire des muffins à base de courgettes, bien, le dire à l'enfant. Parce que le but, c'est de développer le goût chez les enfants, d'explorer des aliments qui sont peut-être pas toujours prêts à explorer. Puis le fait de les cacher, ben ça ne les avance pas à grand-chose. Puis le fait de les retenir et de les donner juste à petite dose chez l'enfant, encore une fois, tout ce qui est retenu va mettre plus le focus sur cet aliment-là. Donc, mettez les aliments selon qui est disponible chez vous, selon le budget familial, et votre enfant va développer le goût graduellement. Il va comprendre que certains aliments à la maison, on les mange de manière plus fréquente, et d'autres aliments rentrent à la maison de manière un peu moins fréquente. Donc, l'enfant comprend les habitudes familiales, et c'est comme ça qu'il va être capable de développer une saine relation avec les aliments. Donc, ne pas les nommer gâteries ou surprises ou cochonneries.
Ça veut dire que la galette à l'avoine et raisins, a priori, on a l'impression que c'est bourré de sucre et tout ça, c'est peut-être pas si mauvais que ça qu'une fois de temps en temps, on en glisse une dans la boîte à lunch, là.
Surtout s'ils sont faits maison. Okay. Donc, lorsqu'on la fait maison, c'est exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, est-ce que je suis en train de vous dire d'éviter les raccourcis? Pas du tout, c'est la vraie vie. Je suis maman, je fais des lunchs aussi. Donc, parfois, au manque de temps, oui, les raccourcis sont les bienvenus dans la boîte à lunch parce que votre enfant sait que ça existe, ces aliments-là. Donc, de temps en temps, ça peut nous aider, mais pourquoi pas?
Et Madame Gergès, comment on encourage les enfants à manger les aliments qu'on met dans leur boîte à lunch? Parce que on se le cachera pas, là, des fois, les goûts, ça se développe, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des astuces là pour rendre les aliments plus attrayants? J'irais même jusqu'à dire, si c'est possible, meilleur au goût, si on peut dire.
Premièrement, les invitants à participer à l'élaboration de la boîte à lunch. Si un enfant qui sait ce qu'il y a dans sa boîte à lunch, d'emblée, il a plus le goût d'ouvrir la boîte à lunch puis de la manger. Puis, dites-vous, on mange avec les yeux, autant les adultes que les enfants, donc mettez de la couleur. Ça peut être par les fruits, par les légumes. Vous pouvez ajouter aussi un petit côté ludique aux aliments à l'aide d'emporte-pièces. Un poivron coupé en étoiles, c'est peut-être plus intéressant qu'un poivron coupé en lanières. Mettre des petits pics alimentaires avec des petits yeux, des crayons alimentaires sur lesquels je peux écrire, avec lesquels je peux écrire un message sur les sandwichs des enfants. Des yeux et des confettis qui sont comestibles. Puis un point important que j'aimerais ajouter, limiter le nombre de contenants à ouvrir. Parfois, on a tellement un beau lunch, mais on a trop de contenants à ouvrir. Donc, les boîtes compartimentées style bento dans lesquelles l'enfant, dans lesquelles on peut réunir plusieurs aliments, l'enfant a une seule boîte à ouvrir et voit vraiment du premier regard tout ce qu'il y a à manger. Mettre des quantités qui sont à la hauteur de l'appétit de votre enfant. Donc, si la boîte, elle revient toujours vide, il y a des chances que votre enfant aurait mangé un petit peu plus. Puis l'inverse, si la boîte revient à moitié pleine, il y en avait trop. Puis c'est décourageant pour un enfant de voir trop d'aliments, surtout chez les petits cocos qui ont un petit appétit. Donc, ajustez les quantités que vous allez mettre dans les boîtes à lunch avec le retour des lunchs. Puis dites-vous que vous allez vous ajuster au courant de l'année parce que, vous le savez autant que moi, l'appétit, c'est comme la météo. Hein. Ça change, puis c'est imprévisible. Donc, selon les poussées de croissance des enfants, selon les activités ponctuelles, ça se peut que l'appétit de votre enfant fluctue à la hausse ou à la baisse. Et s'assurer que votre enfant est capable d'ouvrir les contenants que vous allez lui mettre, qu'il a les ustensiles nécessaires pour manger. S'assurer que la température est idéale. C'est un fromage mou, là, ça intéresse personne. Donc, on met des blocs réfrigérants. On optimise l'efficacité du fameux thermos, donc les contenants isothermiques. Donc, on s'assure qu'on a bien mis de l'eau chaude avant pour que le repas soit une température idéale. Donc, on met l'enfant dans une position de réussite et puis on adapte les portions. C'est beaucoup, beaucoup ça, les portions qu'on va proposer à l'enfant pour ne pas le décourager. Puis, allez-y. Utilisez votre imagination avec les emporte-pièces, les petits confettis comestibles, les plus vieux, les enfants adorent cette petite touche. Pourquoi pas un petit message sur une banane ou ça peut être une petite photo que vous allez glisser dans la boîte à lunch en souvenir des vacances, un petit tatou que l'enfant peut mettre sur sa main. Donc, dites-vous, la boîte à lunch, c'est le lien entre le parent et l'enfant qui est à l'école. Donc, lorsque je parle de familiarité, lorsque je parle d'une approche qui est sécurisante, c'est ce que je veux dire par ça, c'est que l'enfant est à l'école, il mange avec ses amis, mais il y a un petit rappel que ses parents ont pensé à lui. La boîte à lunch, elle est sécurisante, il y a des aliments qui correspondent à ses goûts, ses préférences et ses aversions, bien évidemment.
C'est intéressant tout ça, oui. Madame Gergès. En tout cas, on est en train d'entendre que si on avait tendance des fois à prendre des raccourcis en achetant des aliments qui sont tout près, là, à l'épicerie, par exemple, il y a peut-être des vertus à faire, comme on le disait, la boîte à lunch pour les enfants, pour s'assurer qu'ils mangent bien et qu'il y ait, comme vous dites, cette espèce de rapport entre les parents et l'enfant quand il est à l'école et qu'il doit consommer justement ces aliments-là.
Tu sais, des fois, on tourne les coins un peu ronds là, parce qu'on est pressé. Alors, on en a appris énormément aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup, Madame Cosette Gergès. Elle est nutritionniste à une organisation qui s'appelle Nutritionniste en pédiatrie. C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
Madame Gergès, si on veut avoir des informations, hein, si on veut prendre des conseils et des trucs du genre, je présume qu'on peut vous retrouver dans les médias sociaux, sur Internet également.
Exactement. Donc, nutritionniste en pédiatrie, vous allez trouver sur Instagram, sur Facebook, on a notre site web également, qui est une section d'outils gratuits pour les parents. Donc, vous vous accompagnez dans les boîtes à lunch. J'ai une panoplie d'outils gratuits, vous pouvez aller les consulter.
Cosette Gergès, nutritionniste, merci beaucoup. On en a beaucoup appris et puis on va souhaiter une bonne rentrée scolaire aux enfants et aux parents également en même temps.
Merci à vous. Bonne rentrée à vous.
Merci.
Peut contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
Es-tu prêt, Simon?
Comme un seul homme. Je dirais même comme deux seuls hommes.
T'es-tu préparé cet été?
J'ai fait des exercices.
Mentalement.
De méninges, ouais.
Oui, c'est ça. OK. Tu t'es entraîné au cours de l'été.
Je suis passé à travers Wikipédia, j'ai essayé d'assimiler plus de matière possible. Non, mais sans blague, c'est le premier de la saison.
Oui, c'est le premier de la saison. C'est notre quiz et je vais être plutôt gentil avec toi et avec les gens qui nous écoutent.
Oui, parce qu'il faut pas perdre de vue que nos quiz, on va en faire un désormais à chaque semaine.
C'est ça.
Ça va être comme, excusez l'expression anglaise, le stunt. Le happening.
Le happening.
C'est ça.
Oh, on a un happening à chaque semaine. Et cette semaine, je t'ai préparé un vrai ou faux.
Ah, un petit quiz de vrai
un
ou faux.
Un petit vrai ou faux. Oui, c'est vrai ou faux. Puis c'est général, connaissance générale.
OK.
OK? Première question.
Oui.
L'homme a plus de poils que la femme. Vrai ou faux?
Je dirais curieusement faux.
Et ce l'est faux, mon cher ami. La femme possède autant de poils que l'homme, mais les siens sont plus fins et moins pigmentés. Ils sont souvent présents sous la forme d'un léger duvet peu visible, alors que l'homme possède plus de poils terminaux, c'est des poils longs, épais et pigmentés. La femme et l'homme ont 5 millions de follicules pileux, structure de la peau qui produisent les poils et les cheveux, répartis sur le corps entier, en incluant le cuir chevelu. 5 millions.
Ça veut dire
5 millions de poils.
Ouais. Ça veut dire que la femme à barbe, par exemple.
On a perdu avec les années, là, mais.
La célébrissime femme à barbe.
Oui.
C'est à toute fin utile, c'est juste que ses poils sont plus visibles.
Exactement.
Plus forts que la moyenne des femmes.
Exactement. T'as tout compris.
Bon.
La durée d'un jour a toujours été de 24 heures. Vrai ou faux, Simon?
La durée, non, je pense pas, parce que ça a dû être revu à un moment donné dans l'histoire, non.
Tu as raison, c'est faux. Il y a 900 millions d'années, la durée... 900 millions d'années.
Wow! Alors,
on n'était pas là, là.
Mais non, ben c'est ça, là.
Mais OK. La durée d'un jour était de 18 heures. Les jours sont de plus en plus longs. Ils s'allongent d'environ 2 millisecondes tous les 100 ans.
Tous les 100 ans, oui.
Tous les 100 ans. Donc, si tu...
2 millisecondes tous les 100 ans.
C'est ça.
OK. Fait que nous autres, on sera pas nécessairement témoins de ce changement-là, de cette...
C'est l'attraction de la Lune qui fait, bon...
Eh ben.
Avec la rotation de la Terre, qui fait que, bon, ça s'allonge un petit peu. Trois. Question 3. Laura Ingalls.
C'est la petite maison dans la prairie, c'est
ça? L'héroïne de la petite maison dans la prairie a vraiment existé.
La famille Ingalls a effectivement vraiment existé.
C'est vrai.
Mais oui.
Laura Ingalls Wilder a vécu de 1867 à 1957. Elle était une écrivaine américaine. La série télévisée américaine La petite maison dans la prairie, Little House on the Prairie, est inspirée de son roman autobiographique Little House. Cette série de 187 épisodes a été diffusée de 1974 à 1983. Elle raconte l'histoire d'une famille de fermiers au 19e siècle dans le Minnesota.
OK.
Le Minnesota.
Hey, on a-tu regardé ça?
Où il y avait les Stars. Hein, quoi? Oui.
On a-tu regardé ça? Ah, ben, moi, j'ai regardé ça.
On n'avait pas
ça,
le choix,
là.
Hein?
Ben, écoute, hein, s'il y avait pas mal moins de chaînes de télé aussi.
Ben, c'est ça. J'espère. Question numéro 4. Seuls les moustiques femelles piquent. Vrai ou faux?
Je sais pas. Non, je dirais... Et j'hésite, hein, je suis sur le fil du rasoir. Je dirais faux.
C'est vrai!
Ah oui, hein?
Oui. Les moustiques mâles et femelles se nourrissent du nectar des fleurs, OK, et participent ainsi à la reproduction des plantes au même titre que les papillons. Toutefois, les femelles ont aussi besoin de sang pour assurer le développement de leurs œufs.
Ah, c'est ça la raison.
Oui, pour l'obtenir, elles piquent des mammifères.
Ça fait quand
dont
on
nous sommes.
Que quand on écrase un moustique,
oui,
on tue une maman finalement, c'est un peu ça.
C'est à peu près ça, oui. Fais-moi donc sentir mal.
Ben, je sais pas, mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu ça. OK.
Non, mais je veux dire... C'est... OK, bon. 5.
Désolé. Mais non, mais c'est le...
Là, ma fille est mal à chaque fois, mon nez foiré un.
Mais non, mais c'est correct. Je veux dire, écoute, ça fait partie... C'est la réalité implacable de la vie. Hein.
C'est, oui, oui, c'est
naître,
ça.
Naître, c'est vivre et mourir.
Mourir, exactement.
Il y en a qui vont mourir...
plus vite que d'autres.
Plus vite que d'autres c'est et plus ça. Violemment, peut-être.
C'est ça. Les autruches... mettre la tête dans le sable quand elles ont peur, vrai ou faux?
C'est faux, ça, c'est un mythe. Bon, merci Microsoft encore qui nous fait des notifs.
Ils sont vraiment gentils, hein? Ils nous envoient ça toujours quand on est en train d'enregistrer.
Toujours. Non, mais pas toujours, mais...
Mais souvent.
Disons assez souvent.
Tu as raison, mon cher, ouais. C'est faux. Cette idée vient probablement du fait que les autruches aplatissent parfois la tête et le cou au sol pour se cacher des prédateurs, notamment pendant la couvaison. De loin, ça leur donne l'aspect d'un monticule de terre.
OK.
Fait qu'ils se dissimulent, se camouflent. En réalité, une autruche peut se défendre en donnant de puissants coups de patte, et ça a l'air que ça fasse fort, et peut s'enfuir en courant à plus de 70 km/h. C'est le plus rapide des oiseaux terrestres. Le palmier est un arbre. Vrai ou faux, Simon?
Probablement vrai.
C'est faux, mon frère.
Bon.
Oui, d'un point de vue botanique, le palmier n'est pas un arbre, mais une plante géante de la famille des monocotylédones, dont font partie les orchidées, les céréales, le maïs, le blé, le riz, tout ça. Hein?
OK.
Et l'herbe à pelouse.
Ah, ouais.
Eh ouais.
La même famille.
La même famille. Il n'y a donc pas de tronc en bois, mais une tige pleine de moelle appelée stipe, et il n'a pas des branches, mais des palmes. OK.
Ah ben, fait que c'est ça, le palmier, finalement.
Oui, c'est ça. Certaines pierres flottent sur l'eau. Vrai ou faux?
Je pense qu'il y a certaines pierres, effectivement, qui sont suffisamment légères ou qui ont, qui peuvent, oui.
C'est vrai.
Réponse, peut-être, quelque chose dans le genre?
Ma foi. Tu as vraiment bien étudié, mon cher.
Genre de pierre volcanique. Si
oui, c'est la pierre ponce.
C'est ça.
Cette pierre est formée par la lave des volcans. Elle flotte parce qu'elle contient de nombreuses bulles de gaz qui sont emprisonnées par la lave et qui se refroidissent rapidement. Gadget est un mot d'origine anglaise. Vrai ou faux, mon cher Simon?
Ben, a priori, je serais tenté de dire oui, mais je présume que tu vas me dire que c'est pas le cas.
C'est faux. Ce mot est d'origine incertaine.
Hein?
Mais il vient probablement du français.
Ben oui.
Hein?
Eh ben.
Eh oui. On pensait que c'était un anglicisme, mais oui. Il apparaît pour la première fois, écrit en 1886. Et cette année-là, une entreprise française nommée Gadget, G-A-G-E-T, Gautier et compagnie, eut l'idée de fabriquer des modèles réduits de la Statue de la Liberté. L'entreprise qui effectuait le travail de fonderie pour la construction de la Statue de la Liberté proposa ses miniatures à l'inauguration de la statue en 1886. Les miniatures mentionnaient le nom de la société déformée en anglais en
Gadget. Ah!
Mais ça viendrait du français. Il était gadget, en fait, mais
fait qu'il achetait
en anglais, on a ajouté un D.
Eux autres, ils achetaient des gadgets.
C'est ça.
Ça a dérivé vers l'anglais gadget, partant justement...
Et c'est devenu un gadget.
Hey, c'est intéressant,
une bebelle.
Ah. Ben, non, mais je veux dire, les Anglais, de toute façon, utilisent régulièrement dans beaucoup d'autres contextes des mots français.
Là, absolument.
De la fine cuisine, par exemple, des trucs du genre. Alors, c'est pas rarissime, là.
Question numéro 9.
Oui.
Les mots amour, délice et orgue peuvent être masculins au singulier et féminins au pluriel.
C'est absolument vrai.
Bravo, Simon. Les mots amour, délice et orgue sont les seuls mots de la langue française qui peuvent changer de genre
ouais.
en même temps que de nombre. On dit par exemple le parfait amour et les premières amours.
C'est ça.
Un vrai délice et des délices infinis avec un E. S. Un orgue d'église et les grandes orgues de la cathédrale. Hein?
Et c'est là une des particularités de la langue française oui. parmi tant d'autres.
Oui, parmi tant d'autres.
Qui
oui.
font que pour quelqu'un qui arrive d'un autre pays puis qui commence à vouloir se franciser, soyez pas étonnés si des fois il y a des accords de genre, c'est de verbes, de temps qui sont oui. un petit peu compliqués.
C'est un petit peu compliqué la langue française.
Parce qu'il y a déjà un anglophone qui m'a dit, si tu veux parler en anglais, tu mets 3-4 mots un au bout de l'autre.
C'est ça.
Puis tu vas être capable de faire une phrase.
Oui.
Mais en français... Le degré de complexité, des fois, est un petit peu plus élevé, disons, de deux coches.
Plus jeune, on me disait, tu apprends le français et t'attrapes l'anglais.
C'est, OK, c'est bien dit, c'est pas pire, oui.
OK, question numéro 10. On termine avec celle-là, mon cher.
OK.
SOS veut dire « save our ship », vrai ou faux?
Ça veut dire « save our souls », me semble.
C'est faux.
OK, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, tu as raison. Mais okay. c'est pas Save Our Soul, mais c'est correct, je vais t'en revenir avec ça.
Okay.
Le SOS est en fait un signal d'appel à l'aide en alphabet morse. Il est constitué de 3 points, 3 traits, 3 points. Ces 3 lettres n'ont aucune signification. On a toujours pensé que ça avait une signification, mais il y en a pas.
Ah, ouais.
Elles ont été choisies en 1906 pour leur clarté.
Okay.
Tout simplement parce qu'ils sont faciles à reconnaître. Par la suite, ces lettres ont été associées à de nombreuses expressions, probablement pour en faciliter l'apprentissage. Save our souls et save our ship.
OK. C'est un peu comme, par exemple, quand on dit, pour apprendre le nom des planètes, à l'époque, on disait, mon vieux, tu me jettes sur une nouvelle planète.
Oui.
Pour retenir, tu sais, Mercure, Jupiter, nanana. Et alors, eux autres, ils ont...
Ben, c'est ça, SOS, okay. c'était ça.
Alors, ça veut dire absolument rien, dans le fond. C'était juste...
Ben, de la manière dont tu l'as fait, ça veut probablement rien dire, oui.
Non, ça veut pas rien dire. Ça veut dire que l'émission est quasiment terminée. On arrive à la toute fin, mesdames et messieurs. Ben
déjà.
Oui, c'est terminé une première oui. en boîte. On va vous souhaiter de passer une bonne semaine.
Oui, absolument. Puis soyez des nôtres la semaine prochaine. Encore, on va avoir plein de beaux sujets pour vous.